Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio FM+. Aujourd'hui, nous allons faire un 10-10 avec UFC Que Choisir et Claude Gobert, qui est notre partenaire, enfin Claude, oui, mais au travers d'UFC Que Choisir. Bonjour Claude.
Bonjour, bonjour Maria, bonjour à tous.
Voilà, et nous avons deux invités aujourd'hui, c'est Michel Le Fille, qui vient du Cameroun. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et puis Mamadou, qui lui vient de Guinée-Conakry. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Donc, nous allons parler de sujets très importants aujourd'hui, grâce à Léonie qui va assurer la technique de cette émission. Parce que sans Léonie et sans technicien, il n'y a pas d'émission, il faut le savoir quand même, messieurs, mesdames. Donc, c'est une pièce maîtresse de l'émission d'aujourd'hui. Donc, nous allons parler, pour commencer, Claude, si vous le voulez bien, du carburant et de sa consommation en essence. C'est le moment ou jamais.
Oui, effectivement, bon, je n'apprendrai rien à personne. Le prix de l'essence s'est envolé, que ce soit l'essence et aussi le diesel, même encore plus pour le diesel. Et donc, du coup, c'est l'occasion de vous donner un certain nombre de conseils pour essayer de réduire votre consommation d'essence et par là, en faisant quelques économies.
Alors, la situation, c'est vraiment d'actualité parce que la situation au Moyen-Orient fait que l'essence a flambé en quelques jours. Nous sommes, j'ai pas de voiture, mais j'ai cru comprendre que nous étions aux alentours de 2 euros.
Ah oui, 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 le diesel a franchi les 2 euros. Alors, ça dépend effectivement de la station à laquelle vous allez vous adresser. Mais le diesel a franchi les 2 euros et l'essence quasiment. D'accord.
Bon,
donc, ça fait quand même 25 ou 30 centimes de plus qu'il y a un mois ou deux mois.
Vous voulez que je vous dise quelque chose qui va faire sauter certains auditeurs?
Ah, écoutez.
Pas de voiture.
Alors, effectivement, c'est notre premier.
C'est radical.
Notre premier conseil, qui peut peut-être choquer certains, c'est.
Quand vous le pouvez.
Laissez votre voiture à la maison et c'est peut-être l'occasion d'essayer d'autres modes de déplacement. Il faut savoir que plus de 40% des déplacements, c'est moins de 2 km, d'accord ? Donc moins de 2 km, il y a d'autres solutions.
Ben c'est exactement les 20 minutes de marche qu'il faut faire tous les jours pour être en bonne santé.
Marcher un peu plus, utiliser les transports en commun. À Montpellier, ils sont gratuits. Enfin, pour les Montpelliérains en tout cas. Enfin, pour les habitants de la métropole. Donc c'est peut-être l'occasion d'essayer d'utiliser ces transports en commun. Donc là, effectivement, l'économie, elle est de 100%.
Après, il y a le train, il y a les bus,
voilà,
il y a les blablacars, il y a plein de choses.
Oui, oui.
Maintenant, aller faire ses courses au supermarché, faire le plein, même à 2 km sans voiture, ce n'est pas forcément évident. Donc, et puis les artisans, tous les gens qui travaillent avec leur voiture. Donc, il y a un grand nombre de conseils, il y en a à peu près 15, mais on va prendre les principaux. Donc moi, je vais en citer quelques-uns comme ça, qu'on ne commentera pas. Il faut bien gonfler ses pneus. Donc, vérifier régulièrement que les pneus sont bien gonflés.
Il faut éviter. C'est une sécurité.
De toute façon, parce que beaucoup de ces conseils, d'ailleurs, sont en lien avec la sécurité, fort heureusement, donc la diminution de la consommation d'essence, mais aussi la sécurité. Éviter de surcharger la voiture. Bah, évidemment, plus la voiture est lourde, plus c'est difficile à déplacer.
Oui, surtout des trucs sur le toit augmentent rapidement
c'est
la consommation.
Ça, les accessoires extérieurs.
Les accessoires extérieurs, oui.
Et puis, il y en a un sur lequel on va s'arrêter, c'est démarrer en douceur.
Alors ça, effectivement, ça fait partie d'un certain nombre de conseils. On conduit cool, d'accord ? On ne démarre pas sur les chapeaux de roue. On ne met pas le moteur en sur-régime, d'accord ? Le moteur, une essence, doit tourner autour de 3000 tours minute. Pour le diesel, un peu moins. Donc, il ne faut pas hésiter à rapidement changer de vitesse. On freine le moins possible, c'est-à-dire qu'on utilise le frein moteur pour quand la circulation va vous obliger à ralentir, etc., etc. Tous ces conseils-là, mis bout à bout, ça va faire des économies non négligeables.
Conséquente, hein, 35%
oui,
et conduite avec doigté, 40%
voilà,
d'économie.
Voilà, absolument. Il y a aussi quelque chose, on réduit sa vitesse, d'accord ?
20% d'économie.
20% d'économie. Quand on passe de 130 km/h à 110 km/h sur l'autoroute, effectivement, c'est si vous avez d'ailleurs un véhicule qui vous permet de mesurer à l'instantané la consommation d'essence, vous allez vite vous apercevoir que ça change nettement la consommation.
Alors, sur le démarrage en douceur, vous avez, UFC propose quelque chose, je trouve, qui est assez intelligent. Vous mettez votre contact en route. Et puis ensuite, vous prenez le temps de vous installer, de mettre votre ceinture, de mettre le dernier petit coup de rouge à lèvres, etc. C'est-à-dire que vous démarrez tranquillement.
On conduit cool.
C'est ça. Bon, limiter les freinages, ça va un peu avec rouler avec doigté,
voilà,
c'est-à-dire qu'il faut anticiper beaucoup.
Voilà, d'accord. Donc, Et puis, bon, on ne va pas passer tous les conseils, il y en a 15. Vous les retrouverez de toute manière sur notre site national quechoisir.org. Bon, évidemment, il y a aussi rechercher la station, surtout en ce moment, la station d'essence la moins chère. Donc, il y a tout un tas de cartes interactives qui vous permettent de savoir instantanément.
Donc, ça sur Internet.
Voilà, sur Internet. Il y en a une sur notre site national. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Ayez recours au covoiturage, d'accord ? Oui. En particulier pour les trajets domicile-travail. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui contribuent à ce genre de pratique. Et bon, c'est une très bonne chose. Voilà.
Moi, je voudrais rajouter, réduisez la température dans l'habitacle, parce que beaucoup de gens se servent, et c'est normal, de la climatisation. Je pense que l'hiver est derrière nous, ou presque.
Mais l'été arrive.
Mais je pense que très rapidement, on va basculer dans des températures désagréables, parce qu'elles seront vraiment trop élevées. Et donc là, le fait de diminuer l'utilisation de la clim...
Oui, c'est-à-dire de ne pas avoir un trop grand écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Oui, d'accord, vous dites 4 à 5 degrés.
Voilà, c'est... à la fois une source d'économie, c'est aussi, je veux dire, du point de vue santé, quelque chose de profitable.
Oui.
Parce que ça évite des chocs thermiques quand on rentre ou sort de la voiture.
D'accord. Donc, moi, je suis intéressée par ces fameux sites qui permettent de savoir où se trouve la station la moins chère. Alors, évidemment, on ne cherche pas, une fois dans la voiture et en conduisant, le site pour trouver la station la moins chère. Il faut peut-être le faire avant de partir, si on doit faire le plein, c'est ça ?
Oui, voilà. Si vous avez un plein à faire, eh ben, ça vaut peut-être la faire. Alors, bon... Ça vaut la peine de regarder ce site, dont le nôtre, par exemple. Mais si ça doit vous obliger de faire 50 km pour faire le plein d'essence, bon, peut-être que ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le perdre
oui,
de l'autre.
Donc bien faire ces calculs-là.
Voilà. Faire le plein sur l'autoroute.
Oui.
Parce que là, l'essence est extrêmement chère.
Oui. Mais en même temps, l'autoroute permet cette espèce de régularité de conduite que les petites routes ne permettent pas, la conduite dans les petites routes consomme plus. Et surveiller les opérations spéciales, parce qu'effectivement, il y a des vendeurs de carburant qui, de temps en temps, font des promos.
Oui, alors M. Leclerc nous en avait promise une, où il allait faire une réduction de, je ne sais plus, de 30 centimes, mais bon, finalement, pour l'instant, on n'a pas vu la réduction. Mais enfin, ça vaut la peine de surveiller ce genre de choses.
Et puis, opter pour la bicarburation. Là, on va passer une minute là-dessus, parce qu'effectivement, on est à l'heure où beaucoup de gens, parfois, pensent changer de voiture. On incite beaucoup à l'électrique. Alors, c'est vrai que l'électrique, ça consomme beaucoup moins d'essence. Mais la bicarburation, c'est-à-dire qu'on a deux systèmes...
Oui, la bicarburation, c'est en fait la possibilité d'utiliser l'éthanol en même temps que l'essence. Il y a deux ou trois modèles de voitures neuves qui permettent ça, etc. Mais si vous avez un véhicule à essence, vous pouvez, mais bon, ça suppose un petit investissement, vous pouvez à ce moment-là faire, je dirais, installer un boîtier sur votre moteur qui va vous permettre d'utiliser de l'éthanol qui est quand même beaucoup plus, au point de vue prix, beaucoup plus intéressant. Il y a aussi... Alors là, c'est que ce soit essence ou diesel, la possibilité de passer au GPL, mais là aussi, l'investissement est conséquent.
Ça, ce sont des investissements qu'on peut faire éventuellement sur des voitures neuves qu'on va garder longtemps,
voilà,
et qui permettront de faire cette économie.
Voilà, et pour des personnes qui roulent beaucoup.
Alors, je sais bien que ça ne se fait pas, mais je vais le faire quand même, parce que les deux modèles neufs qui proposent des carburations donc, sont très rares, ces carburations à bicarburation, on va dire. Il y a le Ford Kuga, qui n'est pas donné. Alors, je pense que la Jaguar E-Pace est encore moins donnée. C'est pas pour nous. Je vous propose tout de suite de faire une première pause musicale. On va écouter Volare, qui veut dire écoutez, je vais chercher la traduction après.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh,
tutto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare.
Voilà, c'était donc Volare, cette chanson italienne qu'on a toujours beaucoup de plaisir à réécouter, même si elle est un petit peu ancienne. Elle a été reprise par de nombreux chanteurs. Nous sommes à l'antenne pour ce 10-10 avec UFC Que Choisir, notre partenaire et Claude Gobert. Nous sommes aussi avec deux stagiaires qui s'appellent Michel, qui vient du Cameroun, Michel Fille, et Mamadou, qui lui vient de Guinée, donc qui découvre la radio en France, qui se destinent tous les deux d'ailleurs à être journalistes, j'ai cru comprendre, l'une présentatrice et l'autre présentateur-animateur. Voilà, donc le métier va rentrer à Radio FM+. Et puis Léonie est toujours évidemment à la technique. Je continue, nous continuons plus exactement avec Claude du FC Que Choisir pour évoquer 100 produits alimentaires à prix coûtant. Vous parliez d'Edouard Leclerc tout à l'heure, il va falloir que vous négociez avec lui. Hein.
Oui, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, 32 associations d'origines diverses, mais qui sont toutes focalisées sur les questions alimentaires, en fait, se sont réunies pour mettre en ligne une pétition. Et l'objectif, c'est d'obtenir que 100 produits bons pour la santé soient vendus à prix coûtant dans les supermarchés.
Donc, c'est-à-dire que le supermarché ne ferait aucun bénéfice.
Le supermarché ne fait aucune marge. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'état actuel de la législation, et ça aussi c'est quelque chose contre lequel on lutte, les supermarchés sont obligés de vendre avec une marge d'au moins 10%. Ce qui est complètement, enfin, de notre point de vue, aberrant si on cherche à réduire les prix. L'idée, c'était de favoriser les prix pour, je dirais, en bout de chaîne pour les agriculteurs. En fait, le résultat n'est pas du tout là. Donc, 100 produits...
Sachant qu'on ne peut pas vendre à perte, hein. Ça, c'est aussi la loi.
Absolument. Donc, 100 produits bons pour la santé vendus à prix coûtant dans les supermarchés. Donc, il y a 32 associations. Il y a une pétition en ligne que vous retrouverez facilement. Alors pourquoi ça? D'accord. Parce que d'abord on s'aperçoit que l'accès à un certain nombre de produits, en particulier de produits bons pour la santé, n'est pas forcément très 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 facile pour les consommateurs, pour les ménages.
Oui, il faut savoir que quand même le spectre est plus large, hein, c'est-à-dire que ces fameux produits bons pour la santé sont souvent pas donnés et que c'est aussi en lien avec la lutte contre l'obésité, parce
absolument.
Qu'on sait très bien que tous les autres produits pas chers, sucrés, salés, faciles d'accès, etc., ont des incidences sur la santé publique et que ça aussi, ça a un coût.
Et donc, d'où vient, en fait, cette liste est établie à partir de quoi? En fait, il y a, au niveau national, il y a un programme national nutrition santé, le PNNS, pour ne pas le citer, qui établit en fait des listes de produits. Il y a trois catégories de produits. Il y a ceux qui sont, je reprends, à augmenter, c'est-à-dire que vous devez privilégier et dans la mesure du possible augmenter dans votre
alimentation.
Votre alimentation. Il y a ceux qui sont marqués aller vers, c'est-à-dire qu'il est souhaitable que vous preniez ces produits à la place d'autres, etc. Et puis, il y a ceux qui sont marqués à réduire. Et ce qu'on regrette, et c'est ce que regrettent ces associations, en fait, c'est que ce programme national nutrition santé, ces recommandations, ne soient pas prises en compte. Il y a un programme qui vient d'être adopté par le gouvernement qui s'appelle la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat. D'accord ? Donc, et c'est tout à fait dommage que dans cette stratégie, en fait, cet aspect nutritionnel, qui a aussi d'autres formes, on pourrait parler du Nutri-Score, etc., d'accord, ne soit pas pris en compte. Et que les grandes surfaces, en fait, ne tiennent absolument pas compte de ce genre de choses. D'ailleurs, tiens, on se rapproche de la période de Pâques, il suffit de se promener dans n'importe quel supermarché pour voir que ce qui est mis en ligne, ce qui est mis, je dirais, en première ligne, c'est en ce moment du chocolat, des sucreries, etc., etc. Mmh. D'accord ? Voilà. Donc, mettre ces produits et promouvoir ces produits sans marge pour un supermarché, ça serait une très bonne chose d'un point de vue nutritionnel. Et en même temps, si vous regardez la liste des produits, il y a aussi, je dirais, un retour qui serait bénéfique pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs.
Et puis une consommation plus locale.
Donc voilà, des consommations plus locales, des produits de saison, des produits sains, etc. etc. D'accord ?
D'accord. Donc une pétition qui permet de faire
d'appuyer cette demande, et en même temps ça vous permettra aussi d'accéder à la liste des produits et de voir un petit peu, je dirais, en tant que consommateur, ce que d'un point de vue nutritionnel vous pourriez privilégier.
Alors admettons que beaucoup de gens signent cette pétition. Est-ce que vous avez déjà des retours sur cette pétition? Vous avez une idée des gens qui ont signé?
Plusieurs dizaines de milliers de
gens. Ah, plusieurs dizaines de milliers qui ont signé. D'accord.
Mais bon.
Parce que l'idée, c'est quand même de faire pression.
C'est de faire pression aussi dans un contexte, malheureusement, du côté du gouvernement. Il y a un certain nombre de mesures dans le domaine agricole qui ne vont pas du tout dans ce sens,
malheureusement.
Voilà. D'accord. Malheureusement.
Donc, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir? C'est une façon de faire entendre notre voix. Mais...
Non, mais elle n'a pas, je dirais, elle a toujours une chance d'aboutir, bien sûr. Mais je dirais que c'est une façon de mobiliser, de faire prendre conscience aux gens et de mettre la pression sur les pouvoirs publics.
Où est-ce qu'on trouve cette pétition, Claude?
Écoutez, il suffit de alors sur notre site national, quechoisir.org, il y a aussi...
Et on y accède sans être adhérent à quechoisir, il faut bien dire ça.
Vous pouvez signer, voilà, d'accord. Sur Foodwatch aussi est un des... une des ONG qui a signé cette pétition, il y a Famille Rurale, etc., etc. D'accord. Donc si vous tapez sur un moteur de recherche 100 produits bons pour la santé à prix coûtant, vous trouverez sans problème chez qui signer la pétition.
Pas sans problème, SANS, c'est pas sans problème.
C'est pas, oui. C'est...
Ok, merci beaucoup Claude donc, pour ces informations. Tout ça, ça devrait aller dans le bon sens, c'est-à-dire probablement sur le plan du budget familial, sur le plan de la santé, puis aussi sur le plan de l'environnement, parce que beaucoup des produits transformés consomment de l'énergie.
Absolument.
Alors que nous avons des produits frais, souvent, qui sont excellents, meilleurs pour la santé, et qui nous permettraient effectivement de faire quelques économies. Je vous propose tout de suite la balade de Jim de Souchon. C'est moi qui ai choisi le programme musical aujourd'hui, parce que je n'étais pas sûre que Claude avait fait un choix. Donc voilà, j'ai décidé que je faisais la programmation aujourd'hui.
La prochaine fois, avec un choix musical.
Donc, on va écouter la balade de Jim de Souchon.
Comme elle est partie, Jim a les nerfs. Jimmy boit du gin. La presqu'île, le boulevard de la mer est con. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne en rond. Hier soir encore, son héroïne le serrait si fort. Profond, comme elle est partie. que sa starlette bronze en bord. Avec elle, il voulait un bébé sans vie. Comme elle est partie, attention, Jimmy veut mourir. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas, le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy, les filles pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers, c'est sauter en l'air, tomber par terre. Jimmy va trop vite, Jimmy pleurniche. Il sent son parfum sur la corniche. Les lacets, le gravier est dans l'air du soir. La Chrysler s'envole.
Nous voilà de retour dans ce 10-10 avec aujourd'hui UFC Que Choisir, qui est notre partenaire, nous, à Radio FM+, Claude Gobert qui le représente aujourd'hui. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions deux invités, Michel qui vient du Cameroun, Michel qui est une jeune femme qui souhaite être présentatrice, journaliste présentatrice dans son pays, et puis Mamadou qui lui aussi souhaite être journaliste. Et ils vont prendre la parole parce que nous allons parler du système de santé, en particulier là dans le cas présent, parce qu'il faut quand même serrer les choses, le système de santé c'est très vaste, on va parler des dermatologues. Alors, je voulais vous demander à l'un et à l'autre, comment ça fonctionnait chez vous? Quand vous avez besoin d'un médecin, comment faites-vous? Est-ce que vous avez Doctolib ou l'équivalent, qui est un site qui permet de prendre des rendez-vous avec des médecins? Alors, Michel ou Mamadou, l'un ou l'autre? Mamadou.
Bien, c'est très différent. Chez nous, il n'y a pas une application. C'est ce qu'on a découvert en France ici. C'est très pratique, mais complexe pour chez nous. Parce que déjà, c'est deux environnements différents et de traditions aussi différentes. Et on n'a pas besoin d'une application. Il y a des gens qui sont venus de la France qui essayent de mettre en place ce système, mais qui ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un défi lié à l'Internet, il y a un défi lié aussi à la technologie, etc. Les gens sont habitués chez nous, quand tu as un souci, que ce soit lié à la dermatologie ou bien autre chose, tu te présentes
au cabinet, voilà, directement.
Ou
à la clinique,
besoin,
ou à l'hôpital.
Tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous pour cela. Et le médecin également qui est présent ne fixe pas le nombre de patients qu'il reçoit.
Il peut avoir 10 patients un jour et 50 ou 60.
Oui, ça dépendra de sa capacité donc, d'accueil.
Donc il n'y a pas de rendez-vous, on arrive.
Il y a certains qui essayent de donner des rendez-vous, mais on constate que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a le respect du temps d'abord qui pose problème. Les gens
sont moins précis.
Voilà, donc finalement, tu as un problème, tu te présentes directement et puis et ça passe, c'est très différent.
Et Michel ?
Bon, chez nous au Cameroun également, on n'a pas forcément de besoin de... Pour prendre rendez-vous, ce n'est pas tellement difficile parce qu'on peut se rendre sur les lieux et à l'accueil, on enregistre directement le patient et on fixe une date. Mais aujourd'hui, avec la montée exponentielle de la technologie, on a une application qu'on appelle Mon Docteur 237 où il est possible de choisir un créneau et pouvoir choisir un médecin.
Ça ressemble un petit peu finalement à Doctolib.
Ouais, voilà.
Ok. Bien, bah écoutez, alors c'est très différent en France parce que nous, on a des problèmes pour tous les médecins, que ce soit les généralistes d'abord, qui sont d'ailleurs qui font des prescripteurs pour aller voir des spécialistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir un spécialiste si on n'a pas une ordonnance d'un médecin généraliste. Donc souvent, le bobo, quand c'est un bobo, est passé alors même qu'on finit par avoir un rendez-vous. Mais quand c'est des choses plus graves, c'est plus compliqué. Alors les dermatologues en particulier, mais pas que, mais pose gros problème, Claude.
Ah oui. Je pense que tous nos auditeurs qui ont essayé d'avoir accès à un dermatologue, ils ont dû s'apercevoir que c'était effectivement une sacrée galère. Alors, pour la principale raison, et ça ne concerne pas que les dermatologues, mais c'est particulièrement le cas pour eux, c'est qu'en fait, le nombre de dermatologues, il baisse, je ne dirais pas inexorablement, mais il a baissé, je dirais, on a perdu à peu près 25% des dermatologues ces 10 dernières années. un grand nombre d'entre eux vont prendre vont partir en retraite, et ceux qui arrivent ne remplaceront pas les départs en retraite. Donc, déjà, il y a un problème d'effectif. Il y a un deuxième problème, et ça a été l'objet de notre enquête, c'est que un dermatologue, vous pouvez le consulter pour des soins, je dirais, médicaux. Hein, c'est typiquement, par exemple, un mélanome qui risque d'avoir des conséquences assez graves sur la peau, mais aussi pour des soins esthétiques, d'accord ?
Oui, alors ça se développe beaucoup. Il faut dire que les soins esthétiques consistent effectivement à réduire les outrages du temps, on va dire ça comme ça, mais que c'est très lucratif.
Oui, c'est très lucratif.
C'est très lucratif, beaucoup plus qu'une consultation pour un petit bouton qui nous dérange.
Oui, alors dans les soins esthétiques, il y a aussi un problème qui est lié à... c'est en particulier le cas chez les jeunes, à des pratiques cosmétiques qui finissent par avoir des conséquences non négligeables sur la peau, d'accord ? On n'arrête pas, en tant qu'association, d'alerter, je dirais, les consommateurs sur un certain nombre de produits, je dis surtout sur les jeunes, qu'ils se passent sur la peau, etc., et qui contiennent des substances allergènes ou autres, etc., d'accord ? Il y a des modes, d'accord, que les TikTokers et autres influenceurs promeuvent, qui sont extrêmement...
Alors, c'est le cas pour les peaux noires. Là, nous avons deux invités qui viennent d'Afrique, enfin deux jeunes journalistes, et on sait très bien que beaucoup de jeunes femmes, et même peut-être de jeunes hommes, souhaitent éclaircir leur peau. Et on s'est aperçu que ces fameux produits étaient
très dangereux,
et que surtout, il ne faut pas le faire. C'est, le moins possible, en tout cas, c'est des produits qui sont contrôlés et dangereux.
Ce qu'on a cherché à travers notre enquête, ça fait partie des enquêtes qu'on fait régulièrement, c'est finalement, quels sont les délais pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue? Et c'était soit pour un soin santé, j'ai un grain de beauté qui ne me paraît pas très 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 très, très joli, soit pour un soin esthétique. L'idée étant de voir si l'un avait une influence sur l'autre, etc.
Oui.
D'accord, donc c'était très simple, c'est le type client mystère, je prends mon téléphone et puis j'essaie de joindre les dermatologues.
Des gens du FC ont téléphoné en se faisant passer pour des patients auprès de dermatologues.
Alors, le résultat est vraiment catastrophique, d'accord ? Donc, je dirais que ce soit au niveau national ou au niveau local, c'est finalement, en première approximation, c'est la même chose.
À peu près la même chose.
D'accord ? Donc, le premier truc, c'est que, dans 49% des cas, une fois sur deux, l'appel n'aboutit pas. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'avez personne au bout
téléphone.
Du fil. D'accord ?
On ne vous répond pas, ou on vous met en attente, restez.
D'accord ? En attente indéfiniment.
C'est ça, et vous y restez.
D'accord ?
Personne ne décroche jamais.
Même si le rendez-vous chez Doctolib et sur Doctolib est impossible. C'est-à-dire, on vous... D'accord ? Ça n'aboutit pas. Après, 18% de nos enquêteurs, un peu moins en plus en Occitanie autour de Montpellier. À Montpellier, on a interrogé 30 dermatologues qui sont, je dirais, dans la partie est de l'Hérault.
D'accord.
La métropole, etc. 14% seulement ont réussi à avoir un rendez-vous.
De vos enquêteurs.
D'accord. Un rendez-vous médical et à peu près le même chiffre, un rendez-vous esthétique. Les raisons qui nous ont été avancées quand le rendez-vous n'a pas pu être pris, un cas sur deux, je ne prends pas de nouveaux patients.
Même avec une ordonnance d'un médecin généraliste.
Oui, je ne prends pas de nouveaux patients, d'accord ? Ça ne concerne pas que les dermatologues, d'ailleurs, d'accord ? Rappelez plus tard, il n'y a pas de créneau disponible. Ou je ne pratique pas ce type de soins. Alors, dans certains cas, je ne pratique pas ce type de soins esthétiques, ça peut se comprendre. Je ne pratique pas ce type de soins médicaux, c'est-à-dire je ne fais que de l'esthétique, c'est un petit peu dur à entendre.
Ou même, parmi les soins médicaux, je ne fais que ça.
Oui.
Alors, moi, j'ai essayé effectivement d'avoir un... Alors, je ne faisais pas partie des enquêteurs.
D'accord.
J'ai essayé d'avoir un rendez-vous récemment avec un dermatologue. J'avais plusieurs questions à lui poser. Donc, quand j'ai téléphoné, je n'ai pas eu de réponse. Je me suis donc déplacée. Je suis là... Alors, on m'a expliqué que le planning serait mis en place au 1er février. Donc, il fallait appeler le 1er février ou le 2 à partir de 9h pour avoir accès au planning. Donc on était déjà, je sais pas, en décembre. Hein.
Oui, bon. Oui.
1er février, évidemment, 9h, je me suis précipitée sur mon téléphone. Et là, j'ai eu quelqu'un qui a fini par me répondre, qui m'a dit, écoutez, c'est pas encore établi, ça sera peut-être demain ou après-demain. Donc le lendemain, j'ai rappelé, le surlendemain, j'ai rappelé, et j'ai fini par avoir un rendez-vous dans le trimestre. Et quand j'ai vu la dermatologue, je lui ai dit, mais c'est quand même très compliqué pour arriver à joindre un dermatologue. Quand c'est juste de l'esthétique, c'est quelque chose. Quand il faut faire vérifier sa peau à des endroits que nous ne pouvons pas voir, sur la tête, enfin, il y a plein d'endroits que nous ne pouvons pas voir pour voir s'il y a des taches anormales ou des petits boutons qui sont inquiétants, c'est quand même compliqué. Et elle m'a expliqué qu'en fait, les dermatologues étaient victimes de leur succès. En ce sens qu'on a tellement dit qu'il fallait faire de la prévention que maintenant, il y a plein de gens qui ne prenaient pas rendez-vous avant pour se faire contrôler le corps et qui maintenant le font. Et donc, effectivement, que ça encombre les cabinets d'esthétique.
Absolument. C'est effectivement quelque chose qui est ressorti aussi de l'enquête. C'est-à-dire que certains patients surconsomment les dermatologues. Il n'y a pas besoin de se faire voir, je dirais, sa peau chaque année, etc. Et le conseil, ça serait d'abord de s'adresser à son médecin traitant, qui est quand même, c'est un petit peu plus facile quand même, et qui lui est à même de vous dire si vous avez besoin de consulter vraiment un dermatologue. Donc il y a trop de rendez-vous chez les dermatologues, malheureusement, qui ne servent à rien.
Alors on va quand même donner quelques délais, hein, parce que ça, il faut que les gens le sachent, et donc il faut s'y prendre très tôt à l'avance. Alors évidemment, quand quelque chose survient, c'est toujours compliqué. À ce moment-là, ça peut être... vous avez une plaque qui survient, je ne sais pas ce qui peut se passer.
Un bouton qui dérive. Il y a toujours les urgences.
Voilà, bon. J'allais vous dire, il y a les urgences, mais c'est vrai qu'à l'origine, les urgences n'étaient pas tout à fait faites pour les problèmes dermatologiques. Donc 17% des rendez-vous médicaux et 20% des rendez-vous esthétiques, c'est dans les 2 semaines,
oui.
Ce qui me paraît pas beaucoup, parce que c'était beaucoup plus long pour moi, mais bon, entre 2 et 3 mois pour 32% des rendez-vous médicaux et 49% des soins esthétiques, et plus de 3 mois pour 51% des rendez-vous médicaux et 31% des rendez-vous esthétiques. Donc voilà.
C'est effectivement une galère qui risque de perdurer, puisque le nombre de dermatologues va continuer à baisser avant peut-être de se redresser.
Et il faut savoir que pour faire un dermatologue, il faut pratiquement 12 ou 13 ans.
Voilà, exactement.
Je remercie beaucoup Claude du FC Que Choisir, notre partenaire ici sur Radio FM+. Je remercie beaucoup Michel qui nous vient du Cameroun et qui est stagiaire ici, ainsi que Mamadou qui nous vient de Guinée, qui est aussi stagiaire, de nous avoir parlé du système de santé en Afrique. On vous envierait plus, presque, parce que ça a l'air beaucoup plus simple chez vous. Et vous disposez quand même de plateaux médicaux très importants. Ça n'a rien à voir avec le développement de la technologie. Vous avez quand même effectivement de bons médecins, je suppose, et de bons hôpitaux, je l'espère aussi, et de bonnes cliniques. Merci à Léonie qui a assuré la technique de cette émission. Il est l'heure de vous laisser et nous vous souhaitons à tous et à toutes un très très bon week-end avec du soleil demain. Je fais plus la météo depuis quelques temps, mais bon, et de la pluie dimanche. Mais n'oubliez pas d'aller voter pour qui vous voulez, mais n'oubliez pas d'aller voter, c'est un devoir démocratique et citoyen. Au revoir, merci à tous et à toutes.